Les grands feuilletons de France Culture.
Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez. Avec Philippe Nico dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne.
Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat.
Voilà, mon bon maître, voilà ce qu'a été ma soirée chez le président de la République.
À la fois cocasse et fertile en émotions.
C'est vrai, oui. Et je ne sais pas par quelle sorte de prémonition, mais j'ai eu toute la nuit devant les yeux la double image de Robert Darzac et de Mathilde Stangerson. Ah, vous imaginez sans mal l'effet produit par la nouvelle de l'assassinat de la fille du professeur. Et comment oublier les mots terribles prononcés par Robert Darzac?
Terrible, en effet. Faudra-t-il que je commette un crime pour que vous soyez à moi?
Et drôle, Sinclair, ces mots n'ont pas cessé de me hanter. Et pourtant, voyez-vous, ce ne sont pas ces mots-là que j'ai rapportés à Robert Darzac quand nous sommes rencontrés au Glandier.
Oui, en effet, vous avez cité une phrase où il était question de presbytère, de jardin.
Une phrase que Mathilde Stangerson semblait avoir lue sur le papier qu'elle tenait à la main.
Et Darzac a changé complètement de visage, il était blême, décomposé. Et subitement, il vous a fait ouvrir toutes grandes les portes du château.
Exact.
Dites-moi, Joseph.
Oui.
À cet instant précis, pensiez-vous que Robert Darzac était l'assassin?
Honnêtement, non, non, vraiment. À cet instant précis, comme vous dites, le plus sérieusement du monde, je ne pensais à rien. D'ailleurs, comment aurais-je pu penser à quelque chose? Je ne possédais aucun indice.
Alors, comment, étant si mal informé, avez-vous osé l'interroger de façon aussi brutale?
Ah, ben, mon cher Sinclair, il fallait, en un temps record, que Darzac me prouve, même à son insu, qu'il n'était pas blessé à la main. Et que de ce fait, il n'était pas l'assassin de la chambre jaune. Et alors, quand nous avons été tous les deux, je lui ai raconté ce que le hasard m'avait fait surprendre de sa conversation avec Mathilde dans les jardins de l'Élysée. Et quand je lui ai avoué avoir entendu toute la conversation, vous n'imaginez pas à quel point il fut troublé.
Apparemment moins, toutefois, qu'il ne l'a été par la phrase sibylline et obscure ayant trait à un presbytère et un jardin qui ne peut être qu'un jardin de curé.
Très bien raisonné, Sinclair. Mais en vérité, ce qui a jeté Robert Darzac dans une véritable consternation, ça a été d'apprendre de ma bouche, à la soirée de l'Élysée, que Mathilde s'était rendue l'après-midi même au bureau de poste numéro 40 chercher une lettre. Et cette lettre, c'était peut-être elle qu'ils avaient lue tous les deux dans les jardins de l'Élysée. On rappelait, elle se terminait par cette phrase que vous connaissez.
Et hypothèse vérifiée lors de votre enquête.
Voilà, exact. C'est une partie de la lettre datée du 23 octobre, découverte dans les cendres de la cheminée du laboratoire. Oh, c'est extraordinaire. Cette lettre avait été écrite et retirée du fameux bureau de poste numéro 40 le même jour.
Donc, il ne fait aucun doute qu'en rentrant de l'Élysée la nuit même, Mathilde Stangerson a voulu brûler ce papier un peu comme s'il était compromettant.
Parfaitement, et Robert Darzac a nié avec véhémence que cette lettre eut un rapport quelconque avec la tentative de meurtre.
Alors, qu'avez-vous fait?
Je lui ai dit que dans cette affaire, tellement mystérieuse, il n'avait pas le droit de cacher à la justice l'incident de la lettre, que moi, je la croyais d'une importance considérable, cette lettre. Le ton désespéré avec lequel Mademoiselle Stangerson avait prononcé la phrase fatidique, ses pleurs à lui, cette menace de crime qu'il avait proférée à la suite de la lecture de la lettre, ne me permettait pas d'en douter. Alors il est devenu de plus en plus agité, et c'est là que j'ai résolu de profiter de mon avantage.
Décidément, Monsieur Rouletabille, vous semblez posséder un art particulier pour écouter les conversations qui ne vous sont pas destinées. Il ne fait nul doute pour quiconque que vous enquêtez sur les faits et gestes d'une personne qui a failli être victime d'un meurtre. Ne serait-il pas plus utile de vous préoccuper de son assassin ?
Mais cher monsieur, l'assassin, comme vous dites, est à l'autre bout de ce fil conducteur. Un meurtre ressemble à un cheval mécanique. Si vous partez du cheval, vous aboutissez obligatoirement à l'extrémité du lien que tient l'enfant qui promène son jouet. C'est en partant de Mathilde Stangerson que je trouverai le criminel. Or, je sais également d'où provenait la lettre qu'elle vous a lue alors que vous vous promeniez le long du cours Marigny.
Et d'où venait cette lettre ?
Du bureau de poste numéro 40.
La lettre à laquelle vous faites allusion n'a rien à voir avec l'attentat du Glandier.
En êtes-vous sûr ?
Comme de moi-même.
Comme de vous-même. Dans ce cas, Monsieur Darzac, la situation devient un peu plus simple. La lettre n'a rien à voir avec le crime. Eh bien, signalez donc sa présence à la police.
Jamais.
Et pourquoi ?
J'ai dit jamais.
Monsieur Darzac, nous sommes dans une affaire mystérieuse. Il est aussi important de mettre en lumière un coin du mystère que d'éclairer le système lui-même. C'est une façon simpliste de circonscrire les recherches.
Je suis au regret, monsieur Rouletabille. Ma façon d'envisager les choses ne me permet pas de changer ma réponse. C'est non.
Écoutez, souffrez que j'insiste. Permettez-moi de vous dire que je ne suis pas le seul à connaître l'existence de cette lettre. Car enfin, c'est pas moi qui l'ai envoyée. Alors, à qui ferez-vous croire qu'elle n'a aucun rapport avec l'affaire ? Hein ? Vous ne répondez pas ? Vous savez très bien qu'on vous demandera pourquoi vous avez caché son existence.
Cela me regarde, monsieur Rouletabille. Et en temps utile, j'aviserai.
Monsieur Darzac, vous devriez avoir un peu plus confiance en moi. J'ai entendu Mathilde Stangerson lire la phrase « Le presbytère n'a rien perdu de son charme et le jardin de son éclat ». Elle avait un ton désespéré. Vous-même, vous avez prononcé le mot « crime » et des larmes coulaient de vos yeux. Ça aussi, je l'ai vu et entendu.
Vous n'avez pas le droit, monsieur.
De plus, on a annoncé partout votre mariage avec Mathilde Stangerson et brusquement, ce mariage devient impossible à cause de l'auteur de cette lettre.
Qui vous permet de dire cela ?
Votre réponse. Me faudra-t-il commettre un crime pour vous avoir à moi ? Voyez-vous, monsieur Darzac, la situation est la suivante. Il y a quelqu'un entre Mathilde Stangerson et vous qui lui défend de se marier. Quelqu'un qui préfère qu'elle meure plutôt que de la savoir à quelqu'un d'autre. Voilà. Si vous avez une meilleure interprétation, je serai reconnaissant de m'en faire part. Quand j'ai relevé les yeux sur Robert Darzac, mon chat Sinclair, j'ai vu ses traits décomposés, son front en sueur, ses yeux remplis d'effroi. Et je dois dire, il fallait avoir un culte impitoyable de la vérité pour lui asséner en guise de conclusion ces phrases affreuses qui achevaient de l'anéantir.
Ah bon ? Parce que ce n'était pas fini.
Eh non, j'étais obligé d'aller jusqu'au bout. Et maintenant, monsieur Darzac, il ne vous reste plus qu'à me confier le nom de l'assassin.
Monsieur Rouletabille, je vais vous demander quelque chose qui va sûrement vous paraître insensé.
Non, je vous écoute.
En échange de quoi, je donnerai ma vie, s'il le faut. Vous entendez ? Je donnerai ma vie.
Monsieur Darzac, croyez bien que même après ce que je viens de vous dire, je vous écoute avec infiniment de sympathie.
Eh bien, je vous demande, comme une prière, d'observer la plus entière discrétion sur ce que vous avez vu et entendu dans les jardins de l'Élysée. Il ne faut en parler ni devant les magistrats, ni devant la police. Devant personne.
Oui, mais monsieur Darzac...
Je vous jure que je suis innocent. Et je sais, enfin, je sens que vous me croyez. Alors, sur ce que j'ai de plus cher au monde, j'aimerais mieux passer pour un coupable que de voir les soupçons de la justice s'égarer sur cette phrase.
Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Oui, cette phrase...
Il faut que la justice l'ignore, c'est impératif.
Ce que vous me demandez est extrêmement grave, monsieur Darzac. Vous me mettez dans une situation...
Je le sais. Mais toute cette affaire vous appartient. Enfin, je vous la donne. Je vous la donne à une seule condition. Vous oubliez entièrement la soirée de l'Élysée.
Et si pourtant c'était là la clé de l'énigme ?
Ne pouvez-vous concevoir qu'il existe d'autres clés ?
Quelle attitude troublante, mon Dieu.
Oui.
Le mystère épaissit le ciel du Glandier et les êtres les plus équilibrés, les plus clairs, ceux que nous pensons les plus limpides, deviennent soudain incompréhensibles.
Oui, le presbytère, le jardin. Vous vous souvenez, mon bon maître, de la découverte que j'ai faite dans les cendres de la cheminée du laboratoire ?
Très bien, très très bien, le fragment de lettre.
Oui, qui portait la date du 23 octobre.
Bah, je me souviens parfaitement.
Ben voyez-vous, à l'évidence, ça signifie que Mathilde Stangerson est allée chercher la lettre au bureau de poste numéro 40 le jour même où elle a été écrite. Et ce soir-là, Mathilde a voulu détruire le papier, compromettant. Malheureusement, le feu ne s'en est pas chargé entièrement. Et voilà, le jeu du hasard et de l'amour.
Dites, Joseph, expliquez-vous clairement au lieu de massacrer Musset qui ne vous a rien fait, et uniquement pour vous faire un mot.
Oh, simplement, mon cher, une phrase entendue par accident, quelques caractères épargnés par la flamme, et tout est remis en question.
Écoutez, Joseph, je suis sensible à toutes ces confidences, mais j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous avez vécu pendant mon absence au château du Glandier. Une semaine entière, mon cher.
J'y arrive, j'y
et puis, arrive. Et puis cette phrase inquiétante, à portée revolver, au pluriel. Bon, en dehors de la canne trouvée par Larsan, il y a donc des signes extérieurs, infiniment plus sérieux, et qui accable Darzac.
Vous ne pouvez jamais vous en tirer avec une seule question, hein, bon Saint-Clair. Toujours deux au moins. Bon, eh bien, en ce qui concerne la seconde, c'est vrai, tout converge vers Darzac et sa situation devient un peu plus épineuse.
Mais est-ce qu'il en est conscient ?
Oh, le contraire me paraît impossible. Par contre, il donne l'impression à tout le monde de s'en préoccuper autant que de sa première paire de fixes chaussettes.
Mais c'est incroyable.
Oui, mais c'est comme ça.
Ben alors ?
Bah alors, une seule et unique chose semble avoir de l'intérêt pour notre intéressant ex-fiancé, la santé de Mathilde Stangerson.
Bah écoutez, ça part d'un excellent sentiment. Ça.
Oui.
Et comment va-t-elle ?
Aujourd'hui, mieux qu'hier, mais moins bien que demain.
Oh, soyons jamais sérieux.
Mais si, oui, vous avez raison. Allez. Ah, ça détend un peu. Allez, bon, revenons-en à Robert Darzac. Je voulais démontrer tout se retourne contre lui. Il ne s'agit plus de croire maintenant, il s'agit de constater. Eh oui, les pas élégants relevés par Frédéric Larsan peuvent très bien être les pas du fiancé de Mathilde Stangerson. Et le bon bout de la raison, cher ami, l'empreinte de la bicyclette peut très bien être celle de Robert Darzac. La chose a été contrôlée, plutôt deux fois qu'une.
Non, Joseph, bon, je vous accorde que c'est troublant, mais enfin, c'est insuffisant pour décider d'une chose aussi grave que la culpabilité d'un homme honorable. Ah. Et puis, enfin, il faudrait admettre la possibilité d'une hypocrisie ignoble, monstrueuse. Enfin, Joseph, feindre l'amour et tuer, c'est impensable.
Oui, c'est impensable. Vous plaiderez plus tard, mon cher maître. Non, mais écoutez-moi. Puisque Darzac avait cette bicyclette, il l'a laissée en permanence au château du Glandier. Pourquoi l'avoir ramenée à Paris, justement, à ce moment-là ?
Ben, coïncidence !
Et si c'était parce qu'il ne devait plus revenir au château ? Ah ! Si la rupture de son mariage avec Mathilde entraînait ipso facto la rupture des relations avec les Stangerson ?
Mais c'est de la folie furieuse !
Oui, en apparence, vous avez raison. En effet, chacun des intéressés affirme que ces relations n'avaient aucune raison de cesser. Seulement, voilà, Frédéric Larsan, lui, est persuadé que tout est rompu.
Mais écoutez, Joseph, je sais que vous considérez Larsan comme un policier subtil, mais enfin, c'est un homme. Il sent, il respire, il raisonne. Vous avez été même jusqu'à dire qu'il résonnait comme un tambour, alors sur quoi se base-t-il?
Là, les faits incitent à la prudence et à la réflexion, vous voyez. Primo, c'est Robert Darzac qui accompagne Mathilde au magasin du Louvre.
Oui.
Et alors, coïncidence, c'est là que la jeune femme perd son petit sac contenant la clé à tête de cuivre.
Bon, je vous suis, et après.
Bon. Et après, bizarre, il ne s'en voit plus. Ils ne s'en reverront plus.
Qu'à la soirée, chez le président de la République.
Voilà, exactement. Tout se passe comme si les rencontres Mathilde-Robert Darzac jalonnaient l'affaire du Glandier et contribuaient à chaque fois à la faire avancer.
Enfin, tout de même, vous dites vous-même qu'entre l'après-midi au magasin du Louvre et la soirée de l'Élysée, les fiancés ne se sont pas revus.
Bon, mais imaginez qu'ils se soient écrits. Hein?
Mais il n'y a aucune preuve.
Ah, Frédéric Larsan n'est pas loin de penser que la lettre... La fameuse lettre serait l'œuvre de Robert Darzac.
Bon, d'accord, mais vous étiez, vous, dans les jardins de l'Élysée, Joseph. Mmh. Et vous savez très bien que si Robert était l'auteur de la lettre, ce serait un véritable non-sens.
Maître Sinclair.
Oui.
Frédéric Larsan ignore tout de la soirée élyséenne.
Mmh.
Ben alors, il échafaude. Pour lui, Robert Darzac a subtilisé le petit sac contenant la clé à tête de cuivre. Il s'est ensuite emparé des documents les plus précieux du professeur Stangerson. Il est résolu à ne les restituer que sous promesse expresse de mariage.
Ouais. Alors là, écoutez, j'ai entendu au cours de ma carrière pas mal d'absurdités, mais franchement, Joseph, nous atteignons des sommets. C'est un Himalaya de bêtises.
Mais, et c'est pas tout, Sinclair. Il y a plus grave. Beaucoup plus grave. D'abord, un fait bizarre que je ne parviens pas à expliquer.
Sure.
Vous vous souvenez qu'un homme s'est présenté le 24 octobre au bureau de poste numéro 40 après que Mathilde Stangerson ait retiré la veille la lettre qui lui était adressée.
Mais je m'en souviens parfaitement.
Vous êtes assis?
Mmh.
Eh bien, restez-le.
Ouais.
Cet homme répond point par point au signalement de Robert Darzac.
Non.
Et pourtant, c'est pas lui, ça ne peut pas être lui. Alors...
Ah ben, d'où tenez-vous cette certitude?
Ou du simple bon sens, Sinclair, du...
Ah oui, du bon bout de la raison, oui, je sais.
Admettons, comme le croit Frédéric Larsan, que ce cher Darzac soit l'auteur de la lettre. Mmh. S'il en est ainsi, Robert Darzac n'a aucune raison de se présenter le 24 octobre au bureau de poste numéro 40.
Ouais. Bon, jusqu'ici, vous êtes parfaitement clair.
Et quelle est la véritable signification de cette démarche auprès du bureau de poste? Ah. Eh bien, simplement que le voleur du petit sac noir, l'auteur de la lettre, s'impatiente de ne pas encore tenir la réponse.
Eh oui. Il écrit et on ne lui répond pas.
Eh.
Il s'inquiète et est incapable de conserver son calme. Il se rend au bureau de poste. Il cherche à savoir si la lettre portant sur l'enveloppe l'inscription convenue M-A-T-H-S-O-N a bien été retirée. L'employé lui répond par l'affirmative et il s'en va furieux.
Voilà, de mieux en mieux, c'est ça, exactement.
Eh bien, ravi de vous l'entendre dire, mais Joseph, qu'essayez-vous de prouver en ce moment?
Mais comment ça?
Ben oui, où voulez-vous en venir?
Oh, ben enfin, écoutez, c'est très simple. L'attitude de l'inconnu trahit la déception, l'impatience.
Mmh.
La lettre a été retirée, et pourtant, ce qu'il demandait ne lui est pas accordé.
Ah bon? Et vous le savez, vous, ce qu'il demandait?
Personne ne le sait. Ah si. Ah si, quelqu'un.
Mmh.
Mathilde Stangerson.
Ah.
Bon, essayons de poursuivre un peu notre raisonnement. L'homme qui s'est présenté au guichet du bureau de poste 40 ne peut pas être Robert Darzac.
Ah bon? Et pourquoi?
Eh bien, parce que Robert Darzac savait depuis la veille au soir que Mathilde avait la lettre en sa possession. Elle lui en avait lu un passage dans le jardin de l'Élysée au cours de la soirée. Ça, c'était le 23. Et je le sais d'autant mieux que j'y étais.
Tout à fait juste.
Bon, poursuivons. Alors, tout nous porte à croire, en tout cas, rien de sérieux ne l'infirme, que celui qui est venu réclamer la lettre est celui qui l'a écrite. Pas d'objection?
Aucune objection, votre honneur.
Par voie de conséquence, s'il a écrit la lettre, il est fort probable qu'il soit le voleur du petit sac noir contenant la clé à tête de cuivre.
Toujours logique.
Merci. Maintenant, si on admet que le voleur du petit sac noir est l'assassin, toute notre théorie devient indémontable. Et le plus incroyable, c'est que Frédéric Larsan a analysé la situation exactement de la même manière. Seulement, voilà, il y a une chose qu'il ignore, lui. C'est la scène de l'Élysée.
Et il est trompé par la ressemblance de l'inconnu avec Darzac.
C'est QFD. Le grand Frédéric Larsan fait de Darzac l'assassin de Mathilde.
Mais alors l'inconnu.
Oui.
Bah, l'inconnu peut très bien...
Oh, mon cher maître. Alors là, mon cher médecin, le vouloir, et grâce à un numéro de bafouillage stupéfiant, vous venez de frôler la vérité.
Non, écoutez, alors franchement, Joseph, là franchement...
Non, ça va, vous fâchez pas. Allez. Et je vais vous dire ça très clairement. En fait, vous vouliez supposer que quelqu'un a très bien pu se présenter au bureau de poste numéro 40 en se faisant passer pour Robert Darzac.
Eh ben voilà, vous me l'avez ôté de la bouche.
Ben, ça valait mieux.
Mais bon, Joseph...
De la même façon, il est vraisemblable que quelqu'un ait cherché à se faire passer pour le père Jacques autour du pavillon de la Chambre jaune.
Mais ben, c'est exactement ce que je voulais dire.
Voilà, ben, je me suis simplement permis de gagner du temps en le formulant à votre place, mon cher maître. Alors, reprenons. Vous pensez bien que... Monsieur de Marquet, le juge d'instruction, Frédéric Larsan, moi-même, nous avons tout fait pour avoir auprès de l'employé du bureau de poste 40 les détails les plus précis sur ce singulier inconnu du 24 octobre.
Ben, je vous signale également que
je
moi
sais,
aussi...
Je sais bien. Et alors, personne n'a pu savoir d'où il venait et où il s'en est allé. Et en dehors de ce signalement qu'il fait étrangement ressembler à Robert Darzac, rien, nib, nada, no signe.
Mais vous n'êtes pas resté inactif.
Comme c'est mon genre. J'ai fait passer une belle annonce dans le journal, un communiqué en première page, en encart cerné, pour que ça se repère mieux, tenez.
Alors, forte récompense est promise au conducteur qui a déposé un client au bureau de poste 40. Dans la matinée du 24 octobre, aux environs de 10h, discrétion assurée, s'adresser au journal L'Époque. Et demandez J.R. 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 Joseph Rouletabille, bien sûr. Alors, résultat.
Le désert, mon cher, le désert. Pas un appel, pas une touche. Bien sûr, l'inconnu peut être allé au bureau de poste à pied, mais puisque nous avons conclu qu'il était pressé, je croyais plus logique de courir ma chance auprès des chauffeurs ou des cochers de fiacre.
Ah oui.
Oh, Sinclair, tout ça se complique, je n'aime pas ça.
Ah oui, ben, c'est bien la première fois depuis que je vous connais que je vous vois dans cet état.
Alors, subtil, dans la rédaction de mon communiqué, je n'ai pas donné la description de l'homme afin que tous les conducteurs qui pouvaient avoir vers 10 heures conduit un client au bureau de poste 40 viennent m'en faire part.
Et il n'en est pas venu un seul.
Pas un seul, le désert, je vous le dis, le désert. Alors depuis, je me suis demandé, nuit et jour, quel est ce personnage qui ressemble aussi étrangement à Robert Darzac et que nous retrouvons en train d'acheter une canne tombée entre les mains de Frédéric Larsan.
Non. Bonsoir, mais c'est vrai. Mais j'avais oublié la canne, la fameuse canne de chez Cassel.
Oui, et alors le plus grave de tout ça, c'est qu'à la même heure où à peu près Robert Darzac, qui est chargé de cours à la Sorbonne, vous vous souvenez, s'est trouvé curieusement absent. Son sosie, dans le même temps, allait chercher la lettre.
Oh non, c'est pas vrai, c'est pas possible.
Pardon, Darzac a été remplacé ce jour-là par un de ses confrères et amis.
Et vous avez interrogé Darzac?
Vous pensez bien. Et alors là, sa réponse m'a laissé pantois.
Ah bon?
Ah oui. Mon bon maître, écoutez-moi, Darzac m'a répondu le plus paisiblement du monde qu'il avait fait plusieurs fois le tour du Grand Lac au bois de Boulogne, histoire de prendre de l'exercice.
Mais c'est pas vrai, pas possible. Alors là, franchement, Joseph, les bras m'en tombent. Moi, je ne sais plus que penser. Enfin, depuis que je suis de retour au Glandier, vous passez votre temps à asséner des preuves épouvantables de la culpabilité de mon ami Darzac, alors qu'en plus, vous le savez innocent.
Et c'est pas fini, mon cher ami.
Ah bon, parce qu'il y a encore autre chose?
Ah bah oui, hélas.
Je redoute le pire.
Ah ouais, redoutez. Il est incapable, ou en tout cas, il refuse de communiquer son emploi du temps en ce qui concerne la nuit du 24 au 25 octobre.
Mais pas étonnant dans ce cas-là que Frédéric Larsan s'acharne à prouver sa culpabilité. On serait obstiné à moi.
Ah, qu'est-ce que vous voulez? Darzac a répondu à Frédéric Larsan que ce qu'il faisait de son temps quand il était à Paris ne regardait que lui.
Oh, que c'est mauvais.
Ah, oh. Oui. Ah oui, c'est en tout cas la façon la plus stupide pour se disculper.
Mais il est devenu fou.
Oui, c'est ce qui a fait dire à Larsan, je découvrirai bien et sans l'aide de personne l'emploi du temps de Robert Darzac. Oh. Vous voyez, quand je vous disais que tout allait mal, j'étais pas en dessous de la vérité.
Enfin, pourquoi Darzac se conduit-il de cette façon?
D'autant que ça apporte toute l'eau souhaitable au moulin de Larsan, réfléchissait Sinclair. Si c'est Robert Darzac l'assassin, oui. Et si c'était lui qui se trouvait dans la chambre jaune, cela expliquerait du même coup l'attitude du professeur Stangerson.
Mais comment ça?
Frédéric Larsan prétend que l'assassin n'a pu sortir qu'avec le consentement volontaire du professeur.
Et alors?
Dans le cas présent, le professeur aurait laissé partir le fiancé de sa fille.
C'était Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rèze. Aujourd'hui, 12e épisode. Avec Rouletabille, Philippe Nicot, Sinclair, Philippe de Rèze, Darzac, Michel Rull. Bruitage, Louis Amiel. Groupe de réalisation, Arlette Adrian, Daniel Coccol, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.
Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 16 août 1983. La chaîne des écrivains s'influençant les uns les autres ou se donnant le déclic pour écrire un roman, policier en l'occurrence, est toujours intéressante à étudier de Poe à Gaborio, de Gaborio à Conan Doyle. Gaston Leroux et son mystère de la chambre jaune ont-ils influencé de futurs écrivains? Réponse.
Ce fut aussi à cette époque que j'eus avec Madge une discussion qui devait porter ses fruits plus tard. Nous avions lu une histoire policière. Je pense, car mes souvenirs ne sont pas précis, qu'il s'agissait du mystère de la chambre jaune, qui venait de paraître sous la signature d'un nouvel auteur, Gaston Leroux. Il avait créé un sympathique jeune détective, Rouletabille. C'était un mystère particulièrement déconcertant, bien imaginé et construit, du genre que certains trouvent déloyal, ce qui n'était pas exact, car on doit pouvoir découvrir un petit indice habilement caché. Nous en discutâmes longuement en échangeant nos points de vue. Nous tombâmes d'accord que c'était une des meilleures intrigues du genre. Nous étions des connaisseuses en matière de romans policiers. Madge m'avait initiée très jeune à Sherlock Holmes et j'avais suivi ses traces. Enthousiasmée par tout cela, je déclarai que j'aimerais écrire un roman policier. « Je ne crois pas que tu en serais capable, » répondit Madge. « C'est très difficile à imaginer. J'y ai réfléchi. J'aimerais quand même essayer. »« Eh bien, je parie que tu n'y arriveras pas, » dit Madge. La discussion resta là. Ce n'était pas un véritable défi, mais des paroles en l'air. Néanmoins, à partir de cet instant, je me suis déterminée à écrire un roman policier. Cela n'allait pas plus loin. Je ne me mis pas à l'écrire tout de suite et n'imaginais aucune intrigue. Mais la graine était semée.
Extrait de Une vie, une œuvre, Agatha Christie par Jean-Pierre Croquet. Lecture Éléonore Hirt. Réalisation Christine Berlamont, première diffusion sur France Culture le 1er janvier 1992. À suivre, demain à la même heure, et d'ici là à réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.